Christophe Abbas est premier grand maître adjoint du Grand Orient de France. Alors là encore, une petite physionomie, une petite photographie du Géo.
Bonsoir, mais le Grand Orient de France est une obédience qui date innominée de 1773, le moment où elle acquiert son nom de Grand Orient de France, mais qui a des racines plus anciennes jusqu'au début du XVIIIe siècle, qui représente aujourd'hui 52 000 membres environ, qui est une obédience mixte. Les loges ont la liberté d'être mixtes ou de ne pas l'être. Elles choisissent, et donc la proportion de nos sœurs est très faible, mais
ça progresse.
Mais voilà, ça s'accroît au fil du temps. Mais ce fut également un point important pour l'obédience d'obédience qui travaille comme toutes les obédiences aux valeurs universelles. Il était difficile en effet de laisser la moitié de l'humanité à côté. Il y avait une discordance entre le contenu des principes et le vécu. Et il y a plus de 1000 loges qui sont ainsi distribuées en France, mais également à l'étranger. Voilà, donc ça donne un petit peu le panorama. C'est une obédience qui travaille à différents rites et qui aborde, mais là encore, la liberté des loges prime, mais les loges ne s'interdisent pas de parler de sujets, de société, de philosophie scientifique, politique au sens de l'implication dans la cité, pas forcément de politique partisane. Et donc il y a une grande liberté de ton et d'abord des sujets de société.
Alors justement, puisque vous parlez des sujets de société, je voudrais vous poser aussi, en ce qui concerne le Grand Orient, est-ce que vous avez l'impression qu'au moment des événements que l'on connaît, le Grand Orient n'a pas été un peu silencieux et même très silencieux?
Sur les événements, il y a eu des prises de position interobédientielles. Un certain nombre de communiqués ont été émis et diffusés. Maintenant, il y a parfois à la fois la pudeur, la retenue nécessaire devant des événements qui ont endeuillé, ensanglanté la France, et la nécessité du recul nécessaire. Ce n'est pas en se précipitant et en donnant un diagnostic parfois hâtif que l'on permet de prendre la hauteur nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Or, justement, et ça je pense que pour toutes les obédiences, nous qui partageons les mêmes valeurs humanistes, eh bien, il est important de prendre de la hauteur par rapport à la société civile et d'essayer de mieux comprendre, de mieux dire les causes d'un certain nombre d'événements. Et cela suppose de ne pas forcément réagir à brûle-pourpoint pour se rétracter le lendemain. Donc je crois que nous ne sommes pas dans une temporalité de l'immédiateté, du sensationnalisme de certains médias. Nous devons avoir le recul nécessaire et parfois l'humilité nécessaire de réfléchir pour avoir une vision peut-être plus objective.
Et cette réflexion dans le staff dirigeant, cette réflexion, vous la menez ou on va attendre, voir un peu comment ça se décante? Enfin, est-ce que c'est une réflexion que vous menez, vous, dans la position où vous êtes, avec vos amis qui vous entourent, les amis qui vous entourent?
Bien sûr. Tous ces problèmes ont été abordés au Conseil de l'Ordre, dans les différentes commissions nationales qui suivent l'actualité sur certaines thématiques. Et évidemment, nous avons réagi par des colloques, par des tenues en loge. Le lendemain des attentats de Paris, j'étais dans le Jura le matin avec des loges qui étaient naturellement atterrées, abasourdies par ce qui s'était passé. Et nous étions là en train d'essayer de mettre des mots sur les événements et d'essayer de discerner à la fois les causes et de prévenir, modestement, mais d'essayer de voir comment prévenir demain ces récidives que l'on attend.
Christophe Abbas, le thème, franc-maçonnerie, anachronisme ou vision d'avenir?
Ben, je crois que c'est
qu'est-ce qu'on en dit au Géo?
Ben, je crois que c'est toute l'ambivalence de la maçonnerie. La maçonnerie est à la fois l'accueil d'une tradition multiséculaire, en trois siècles. Donc il y a une tradition qui a été portée par nos frères et nos sœurs dans un contexte passé qui n'est plus, à travers un instrument commun qui est justement l'instrument rituel et symbolique, qui assure cette transmission de génération en génération, et en même temps il appartient à chaque génération d'individus, chaque génération de maçons et de maçonnes, de donner un sens concret. La maçonnerie n'est jamais que ce que nous en faisons. Et réussir une expérience maçonnique, c'est actualiser en quelque sorte une tradition et des questionnements portés par cette histoire. Et il y a au moins trois axes que je traite. D'abord, nous sommes une société initiatique. Et donc, cette société initiatique travaille une sociabilité qui passe justement par la sacralisation du temple, entre guillemets, l'esthétisation, la dramatisation par les rites d'un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres. Un exemple tout bête, je peux déflorer, c'est que, pour vous montrer, même si c'est peu de choses, mais en loge, par exemple, nous ne nous adressons jamais directement à l'orateur. Il y a une triangulation, nous adressons au président ou à la présidente de l'Assemblée, au vénérable. C'est peu de choses, mais cela montre ce que veut dire dramatisation, c'est-à-dire qu'il y a une procédure ici de triangulation et d'intermédiation de la parole qui permet de converser avec le contenu de l'idée et non pas dans une relation de confrontation ou d'affrontement avec l'orateur ou l'oratrice qui est là. Donc il y a, c'est ce qui a été dit précédemment aussi, ce rituel est un rituel qui permet de polisser les corps et les âmes. Il permet une discipline, si j'ose dire, des corps, une esthétisation de l'existence, qui permet de se soustraire, justement, à la contingence du réel, à l'immédiateté du réel. Donc ça, c'est très important. C'est une société initiatique. C'est une société philosophique. On s'interroge sur la destinée de l'être humain. Pour reprendre les trois grandes questions kantiennes, que puis-je savoir ? Que puis-je faire, l'éthique, et que puis-je espérer? Donc c'est un lieu où il y a une éthique du dialogue, où l'on doit respecter et écouter la parole de l'autre, à égalité, quels que soient nos horizons, quelles que soient nos formations. Et dans ce contexte-là, il y a une réappropriation démocratique du destin de l'humanité et des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Enfin, c'est une société philanthropique. C'est-à-dire qu'elle fonde la société sur l'être humain, le centre, c'est l'être humain. L'être humain qui doit être une fin et non pas un moyen, disait Kant. C'est la volonté qu'une société, on l'a redit tout à l'heure, une société qui aujourd'hui est ultralibérale, pense le marché, pense la consommation, pense la croissance effrénée, l'infinitude du désir, et à côté la frustration, ce qu'un sociologue américain, Christopher Lash, dit, cette immaturité des sociétés contemporaines, ce narcissisme, est mis à bas dans le fonctionnement de la loge qui agit au fond comme une contre-société où l'on développe une sociabilité de la relation et de l'écoute au service de la dignité de l'homme. Cela, il faut le vivre et le redire à chaque moment. Et donc c'est le cœur de la maçonnerie qui porte la tradition de valeurs, mais qui nous importe à nous tous d'actualiser en fonction des problèmes rencontrés.
Et tout ce que vous venez de développer, vous avez l'impression que ça irrigue vraiment la société, pas franc-maçonne justement, la société en général, aujourd'hui plus qu'hier, moins que demain, comme dit l'autre. Est-ce que vous avez l'impression que l'influence... pour employer le mot, est aussi forte aujourd'hui qu'elle a pu l'être hier, cette influence?
Non, c'est une influence qui est très surestimée, généralement, et très amplifiée par les médias. Mais l'influence que nous pouvons avoir, c'est ce qui a été dit aussi, c'est l'influence d'abord, l'exemplarité. C'est déjà quelque chose d'important. C'est l'influence du comportement que nous acquérons en loge. Alors certes, c'est une exigence, ça marche plus ou moins. Et puis, c'est, en tout cas, je crois pour le Grand Orient de France, c'est la volonté, à travers ces colloques, à travers ces dialogues, d'un discours citoyen où on un peu comme les universités populaires, les universités de tous les savoirs, où il s'agit de partager ensemble et de se réapproprier des problématiques qui ne sont plus le fait d'experts, même s'il faut des experts pour saisir, délimiter un certain nombre de problèmes, mais qui reviennent au cœur de la société parce que nous les partageons, nous essayons ensemble de les comprendre. Et c'est là, de mon point de vue, ce qui est important, c'est rendre la parole aux citoyens et l'exercice de la liberté, car il n'y a pas de liberté sans savoir.